nouvelle et dernière émission de la saison pour Fréquence 1625 sur Radio Côte-Varoise avec la mission locale Corail de hier. Pendant cette nouvelle heure, nous serons avec des jeunes suivis par la mission locale Corail de hier les palmiers et aussi avec Clara Guess qu'on retrouve tout de suite. Clara Guess fait partie de la mission locale Corail et avant de retrouver nos jeunes, notamment Aaron qui viendra nous parler manga, Lola qui nous fera part de sa passion pour les films d'horreur. Nous terminerons avec Noé qui évoquera l'industrie du rap. Eh bien, nous commençons avec Clara Guess, cette émission. Clara Guess de la mission locale Corail, donc à hier, qui fait partie de l'encadrement et qui nous parle tout de suite des solutions d'alternance que vous propose la mission locale Corail à hier. On écoute Clara.
En écoutant parler les passions des jeunes, je me suis dit quelque chose, que vous avez tous des univers très différents, mais vous avez un point en commun. Quand vous en parlez, on ressent votre enthousiasme, votre curiosité et surtout votre envie d'apprendre. Et c'est finalement exactement ce que recherchent les entreprises aujourd'hui. Souvent, quand on est jeune, on pense qu'il faut déjà tout savoir pour entrer dans le monde professionnel. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est aussi la motivation, l'envie de progresser, la curiosité et la capacité à s'investir. Et c'est justement pour cela que je voulais vous parler de l'alternance, qui est pour moi une véritable porte d'entrée vers le monde professionnel. L'alternance est une façon de se former autrement. C'est un système qui permet de partager son temps entre un centre de formation et une entreprise. Concrètement, le rythme va dépendre de la formation choisie. Cela peut être par exemple une semaine en cours, puis une semaine en entreprise. Certaines formations fonctionnent aussi avec des périodes plus longues. On apprend les bases d'un métier lorsqu'on est en formation et on les met directement en pratique sur le terrain auprès de professionnels, d'une équipe. Pour beaucoup de jeunes, c'est une vraie opportunité parce qu'ils ont besoin de concret. Et il y a aussi un autre avantage important, qui n'est pas à renier, c'est l'alternant est un salarié. Il bénéficie d'un contrat de travail, il est rémunéré et il commence à construire son projet pro, son expérience professionnelle. Pour résumer, l'alternance est un réel atout sur le CV. Elle permet de préparer un diplôme tout en développant une première expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois le point de départ d'un projet professionnel se trouve déjà dans une passion. Quand on vous écoute parler de manga, on ne parle pas uniquement de lecture ou d'animation. Derrière cet univers, il existe des métiers dans le graphisme, l'illustration, l'édition, la communication. Quand on parle de rap, on découvre tout un écosystème derrière la musique, les métiers du son, de la vidéo, de la communication, du marketing. L'idée n'est pas de dire qu'une passion mène forcément à un métier, mais plutôt de montrer qu'elle peut ouvrir une porte vers un secteur professionnel. À la mission locale, lorsqu'un jeune vient nous voir pour l'aider à rechercher une alternance, la première étape est de prendre le temps d'échanger avec lui. On parle de son parcours, de ses envies, de ce qu'il aime, de ses qualités, même celles qui ne sont pas forcément liées au travail. Parce qu'une passion révèle souvent des compétences. La créativité, la capacité à aller chercher des infos, l'organisation, la persévérance, l'autonomie. Ensuite, nous aidons le jeune à identifier les métiers qui pourraient lui correspondre, les formations adaptées et les entreprises qui recrutent. Nous l'accompagnons dans toutes les étapes concrètes en parallèle. La création du CV, la préparation à un entretien, la recherche d'une entreprise. Quand on parle d'alternance, il y a deux types de contrats. La plus connue est le contrat d'apprentissage, qui permet de préparer un diplôme du CAP jusqu'aux formations supérieures, du type licence ou master. Il existe aussi des titres professionnels, qui sont là des formations beaucoup plus ciblées, orientées vers des compétences nécessaires à un métier précis. Dans tous les cas, le principe reste le même, apprendre un métier en le pratiquant. Côté entreprise, des aides financières à l'embauche des apprentis existent pour accompagner les employeurs dans leur démarche et faciliter le recrutement. La mission locale Corail est un partenaire des entreprises locales dans leur recrutement. Les employeurs peuvent nous transmettre leurs offres d'alternance, leurs besoins en recrutement et à partir de ces éléments, nous identifions les candidats dont le profil correspond le mieux à leurs attentes. Nous assurons également un rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et le jeune en accompagnant les deux parties tout au long du processus de recrutement jusqu'à la signature du contrat. En somme, l'alternance est un dispositif gagnant-gagnant. Elle permet aux jeunes de se former, d'acquérir de l'expérience, tout en offrant aux entreprises la possibilité de préparer leurs futurs talents.
Merci Clara Guess de la mission Local Corail, ici à hier. Et on commencera cette émission avec donc le premier jeune, Aaron, qui a 18 ans et qui nous fait part tout de suite de sa passion pour les mangas. C'est bande dessinée, entre guillemets, bande dessinée japonaise, on écoute Aaron.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les mangas et les animés. Donc je vais commencer par vous donner la différence entre un manga et un animé. Donc un manga, c'est un livre japonais sous forme de BD qui se lit de droite à gauche et qui est en noir et blanc. Et un animé, c'est les dessins animés japonais, en général, qui sont tirés des mangas dans le but de faire des ventes, de la promotion un petit peu pour le manga. Donc en France, le manga a commencé et les animés ont commencé à sortir à peu près dans les années 70, 80. Peut-être grâce à la télé, grâce au Club Dorothée, ils ont été un petit peu médiatisés. Avec des grands titres comme Goldorak, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac et Ken le Survivant par exemple. Donc au début, ils étaient un petit peu mal vus parce que c'était un peu violent pour des enfants, un peu bizarre. C'est une autre culture, donc les adultes avaient un petit peu du mal. Mais au fur et à mesure du temps, ça a quand même continué. Et il a évolué sous plein d'autres formes. Les mangas, ils existent au Japon depuis très longtemps, mais ils se sont vraiment popularisés et modernisés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à un auteur qui s'appelle Osamu Tezuka, qui a fait Astro Boy, qui est son manga le plus connu. Au fur et à mesure du temps, dans les années 2000-2010, il y a plein de nouveaux mangas qui se sont popularisés. Et la France est devenue le deuxième pays le plus grand consommateur de mangas du monde, après le Japon, parce que c'est quand même logique. Et il y a plein de mangas qui sont devenus aujourd'hui cultes, qui sont sortis. Et par exemple, je pourrais vous donner le nom d'un de mes mangas préférés, animé aussi, donc qui s'appelle Bleach. Ça parle d'un lycéen qui s'appelle Ichigo. Et il rencontre une fille qui est une Shinigami. Donc Shinigami, c'est les dieux de la mort dans le monde de Bleach. Et en fait, Ichigo, il peut voir les fantômes, il peut voir les âmes perdues, etc. Et le rôle de cette Shinigami, du coup, c'est de purifier les âmes perdues, de les renvoyer dans un monde pour qu'ils se reposent. Et du coup, Ichigo, il voit cette Shinigami essayer de purifier une âme perdue. Mais vu qu'elle a été très surprise qu'il la voit, parce que d'habitude, personne ne peut voir les Shinigami, bah, elle s'est fait attaquer. Et du coup, bah, elle est blessée et elle demande à Ichigo du coup, de finir le travail et d'attaquer cette âme perdue en lui refilant ses pouvoirs à travers son sabre. Donc elle transperce Ichigo pour lui donner ses pouvoirs. Mais malheureusement, il prend tous ses pouvoirs et du coup, elle devient une simple humaine. Donc il finit le travail et maintenant, c'est lui le gardien de sa ville qui doit s'occuper de toutes ses âmes perdues et les renvoyer dans leur monde.
Mmh. Donc les rôles s'inversent en fait.
C'est ça. Et justement, si je devais avoir un personnage préféré dans tous les animés et mangas, ça serait Ichigo, je pense, parce qu'il a une constante évolution durant toute l'œuvre. Et il n'est pas forcément comme tous les héros de manga classiques qui ont un objectif dès le début, devenir le meilleur, devenir le plus fort. Par exemple, dans One Piece, Luffy veut devenir le roi des pirates. Dans Naruto, il veut devenir le meilleur ninja du village, etc. Ichigo, il n'a pas forcément cet objectif. Il veut juste protéger ses amis, profiter avec eux, etc. Mais malgré lui, il va devenir quand même fort parce qu'il va devoir protéger ses amis. Puisqu'il y a plein de choses, plein de drames qui lui tombent dessus au fur et à mesure de l'œuvre. Du coup, tu le vois grandir, tu le vois devenir plus fort, même si c'est pas forcément ce qu'il veut. Et j'aime bien ce côté de ce personnage. On apprend à s'attacher.
Comment ça t'est venu cette passion pour les mangas, toi ?
Bah, ça m'est venu très jeune, grâce à la famille. J'avais à peu près 7 ans, et dès que j'ai su lire, j'ai lu des mangas. J'ai commencé par Dragon Ball, comme beaucoup d'enfants. Mmh. Et j'ai tout de suite accroché. Je lisais tous les jours, tout le temps.
D'accord.
J'avais mal aux yeux, j'ai dû porter des lunettes.
Ah bon ?
Ouais. Je lisais même en voiture, etc.
D'accord. Ok. C'est quoi ? C'est le dessin qui t'a plu ? Les histoires ? La culture japonaise ? Tout ça ?
Je pense que c'est les histoires. Au début, quand t'es un enfant et tu vois plein de héros se battre contre les méchants, etc., ça fait rêver.
Mmh. Mais aussi, Dragon Ball est jeune aussi, hein, donc on s'identifie un peu au héros aussi, non ?
Oui. Son Goku, au début de l'œuvre, il est enfant, il a notre âge, et au fur et à mesure, il grandit. même s'il garde un côté plutôt innocent, etc. C'est un très bon personnage qui fait rêver tous les enfants. Même, par exemple, au Mexique, Son Goku, c'est devenu un personnage très, très culte. Il l'idolâtre un peu. Il y a plein de restaurants avec Son Goku de partout, des tags. C'est vraiment leur héros.
Au Mexique ?
Au Mexique, oui.
Ah ouais, d'accord. Et on sait pourquoi, non ? Enfin, c'est,
pas spécialement. Juste, d'accord. Ça les a plus touchés que d'autres pays.
Ok.
Et par exemple, si je devais donner un manga ou un animé à commencer pour des personnes qui n'en ont jamais lu ou vu, je pense que je donnerais Death Note. Puisque c'est un manga et un animé très simple à lire, mm-hmm. et accessible à tout le monde.
Et l'histoire, c'est quoi alors ?
Donc ça parle d'un lycéen qui trouve un cahier dans la cour. Et ce cahier a des pouvoirs un peu surnaturels. C'est que si tu écris le nom et le prénom de quelqu'un, il meurt.
D'accord.
Mais du coup, ce lycéen qui a trouvé ce cahier, il veut s'en servir pour tuer tous les criminels du monde en écrivant leur nom, leur prénom. Et faire un petit peu sa justice.
Mmh.
Puisqu'il estime que la justice n'est pas forcément faite, etc.
D'accord.
Et du coup, c'est bien parce qu'il y a un combat un petit peu entre. Un combat psychologique entre la police et lui, les enquêteurs, etc. Et c'est bien. J'aime bien ce manga parce que tu peux voir la limite humaine. Si on donnait de tels pouvoirs à des humains, qu'est-ce qu'ils feraient avec ?
Qu'est-ce que tu ferais, toi ?
Ça, c'est une bonne question.
j'aurais
un peu peur d'utiliser, je pense, ouais. ce pouvoir. C'est pas dans ma nature, mais ouais. c'est quand même très intriguant de pouvoir tuer quelqu'un comme ça, juste avec son nom, son prénom, son visage.
Mm-hmm.
Voilà, donc,
effectivement, c'est très intriguant.
C'est une guerre psychologique ouais. pendant tout le manga.
Donc ça, c'est manga à lire et pas encore en dessin animé, ça ?
Si, ça existe aussi en animé.
C'est
mais
en... D'accord.
Les deux versions sont très bien, honnêtement.
Mm-hmm.
Donc voilà, je conseille pour des gens qui n'ont jamais commencé.
D'accord. On sait pourquoi dans les mangas, c'est uniquement du noir et blanc ?
Peut-être qu'on le sait, mais moi je ne le sais pas forcément.
D'accord. Ok.
Peut-être que ça coûte moins cher à faire, ou je ne sais pas.
Ok. Ouais, parce que c'est du rapide, hein, les mangas. Ça sort, c'est une quantité industrielle. Il y en a...
Oui, les auteurs, en général, ils écrivent beaucoup, ils dessinent beaucoup, et ils ont une grande pression sur leur dos par les magazines, les médias, etc.
Mmh.
Et souvent, ils ont beaucoup de problèmes de santé, ils doivent arrêter leur manga parce qu'ils ont beaucoup de pression.
D'accord.
C'est dommage. Même les animateurs d'animés, tous ceux qui font de l'animation, ils ont beaucoup, beaucoup de pression, ils travaillent tout le temps. Il y a même un studio où il y a eu beaucoup de taux de suicide.
Ouais.
Parce qu'ils sont surchargés, et du coup, c'est pas forcément bien, je trouve, honnêtement.
Ouais.
Voilà. Après, ce qui est bien avec les mangas et les animés, c'est qu'il y a plein de genres différents. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y a les mangas de romance, de sport, d'action, d'horreur, même d'horreur.
Mm-hmm.
Ouais.
Mm-hmm.
C'est un petit peu moins répandu, mais il y en a beaucoup. Et voilà, moi je trouve ça génial.
Mm-hmm. Si on évoque le Japon en matière d'animé aussi, on évoque aussi beaucoup Miyazaki. La différence entre le monde de manga et Miyazaki, c'est pas du tout le même, hein, pourtant.
Non, c'est très différent et ça s'est beaucoup plus popularisé et ça plaît beaucoup plus aux gens européens, américains, etc.
Mm-hmm.
Et ce que j'aime bien avec les œuvres de Miyazaki, c'est que tout est très doux, avec des belles musiques, des couleurs bien pastelles. Les œuvres, il y a toujours un côté poésie dans, mm-hmm. dans les œuvres. Et c'est des œuvres que tu peux comprendre à tout âge, différemment.
Ouais, différemment, parce qu'il y en a quand même des pointus. Hein.
Oui.
Ouais.
Et par exemple, je pourrais citer Le Chat Ambulant, qui est un de mes préférés.
Ouais.
Qui est un très beau dessin animé.
Ouais. L'histoire, c'est quoi ? Je l'ai vu, hein, mais pour okay. ceux qui nous écoutent, on la rappelle l'histoire.
L'histoire, c'est une couturière, il me semble, qui s'appelle Sophie, mm-hmm. qui se prend une malédiction par une sorcière. Et elle devient vieille directement. Mmh. Et du coup, elle part se balader, chercher quelqu'un qui pourrait briser sa malédiction. Et elle rentre dans un château ambulant, un château qui marche. Mais qui marche grâce à un feu.
D'accord.
À une flamme qui est un peu une sorte de moteur.
Mmh.
Et une flamme qui parle. Donc c'est très drôle. C'est surprenant au début quand... On voit des éléments de la nature parler, vivre, etc.
Mm-hmm.
Et il y a un sorcier qui vit du coup dans ce château, qui est le propriétaire. Et t'apprends à le connaître sous plein de formes. Au début, peut-être, il fait un peu peur parce qu'il a des pouvoirs surnaturels, mais au final, c'est une très bonne personne. Il y a un côté poétique aussi dans ce film, et c'est très sympa à regarder.
Donc Miyazaki avec tout l'univers Ghibli, hein, c'est ça, hein?
Oui, c'est les Ghibli.
Les Ghibli. Bah voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur les mangas?
Non, je pense que ça va. Merci.
Bah c'est sympa. Merci de nous avoir tenu un peu au courant comme ça de cet univers que personnellement je ne connais pas trop, mis à part Goldorak dans les années 80, les Chevaliers du Zodiaque, ouais. Et encore, je devenais jeune adulte, donc voilà. Et Dragon Ball aussi, on connaît. Merci beaucoup, Aaron.
De rien.
Bon, et le prochain manga que tu vas te faire là, que tu prévois de te procurer, c'est lequel? T'as une petite idée, non? Tu suis un peu l'actualité des sorties?
Pas forcément, non, là j'ai pas trop d'idées, je verrai bien au feeling, en général c'est ça.
Merci beaucoup Aaron, vous restez avec nous, la suite de Fréquence 16-25 jusqu'à 19h sur Radio Côte-Varoise avec les jeunes de la mission locale Corail de hier, et dans quelques instants nous retrouverons une passionnée de films d'horreur, elle nous en fera part de cette passion de films d'horreur, pour les films d'horreur, Lola sera avec nous sur Radio Côte-Varoise dans quelques instants. On poursuit cette émission Fréquence 16-25 sur Radio Côte-Varoise avec les jeunes de la mission locale Corail ici ailleurs, et où on accueille Lola, 21 ans, et une de ses passions, bah, les films d'horreur. Et pourquoi aime-t-on avoir tant peur, et pourquoi aime-t-on se faire peur? Lola, quelques réponses, il n'y en a pas qu'une, Lola.
Alors effectivement, depuis toujours, l'être humain raconte des histoires pour se faire peur. Des légendes d'autrefois aux films d'horreur modernes, une question demeure. Pourquoi sommes-nous fascinés par ce qui nous effraie? Alors en fait, bien avant l'arrivée du cinéma, le genre horrifique se retrouvait dans la littérature et le théâtre. C'est à la fin du XIXe siècle, à Paris, des théâtres comme Le Grand Guignol proposaient des pièces qui mettaient en scène des histoires sanglantes et macabres. Et c'est grâce à ces différentes influences comme celle-ci que le cinéma d'horreur voit le jour. C'est alors en 1896 que sort Le Manoir du Diable de Georges Méliès, considéré comme le tout premier film d'horreur de l'histoire. C'est un court-métrage muet de 3 minutes qui met en scène une chauve-souris qui se transforme en Méphistophélès et conjure des créatures surnaturelles. C'est alors, 2 ans plus tard, il sort un deuxième film d'horreur, La Caverne Maudite. C'est également lui qui met au point les premiers effets spéciaux comme la surimpression, la disparition, les fumées, ce qu'on retrouvera par la suite dans le cinéma d'horreur. L'horreur cinématographique émerge véritablement dans les années 20, dans une Europe d'après-guerre. En Allemagne, le courant expressionniste fait naître des œuvres marquantes comme Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wenn ou Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Ces films au décor inquiétant posent les bases esthétiques du genre. Alors, pourquoi les gens aiment avoir peur? Alors, d'après un neuroscientifique, un historien médiéviste et une autrice spécialiste d'Hitchcock, ils se sont exprimés sur ce sujet. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, environ une personne sur deux aime se faire peur à travers les films d'horreur, les livres ou les attractions à sensations. La peur est ressentie dans l'esprit, mais elle déclenche une forte réaction physique dans le corps. Dès que vous reconnaissez la peur, votre amygdale, qui est un petit organe situé au centre du cerveau, se met en marche. Elle alerte votre système nerveux, ce qui déclenche la réaction de peur de votre corps. Votre corps libère des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. C'est ce qui va créer et ce qui va faire que votre tension artérielle et votre rythme cardiaque augmentent. Les scientifiques ont distingué plusieurs profils. Il y a ceux qui aiment l'adrénaline, ceux qui cherchent à se dépasser et ceux qui utilisent l'horreur pour mieux comprendre leur propre peur ou affronter les difficultés de la vie. Les études montrent même que les amateurs de films d'horreur auraient parfois une meilleure capacité à gérer des situations stressantes, comme cela a été observé pendant la pandémie du Covid-19. La peur est aussi influencée par la culture et l'époque. Ce qui effraie une société ne fait pas forcément peur à une autre. Nos croyances, notre histoire et notre éducation jouent un rôle important dans nos angoisses. Enfin, nous apprécions surtout une peur modérée. Si elle est trop faible, elle n'est pas très intéressante. Si elle est trop intense, elle devient désagréable. C'est pourquoi les meilleurs films d'horreur jouent souvent avec le suspense. Ils nous mettent en tension progressivement sans nous submerger. Les monstres reflètent les peurs de leurs époques. Les créatures et les méchants des films d'horreur changent avec les époques, parce que nos peurs changent, elles aussi. Chaque génération crée les monstres qui représentent ses angoisses du moment. Dans les années 1970 et 1980 apparaissent de nombreux tueurs masqués, comme Halloween et ou Vendredi 13. Ces personnages sont effrayants parce qu'ils n'ont parfois aucune motivation claire. Ils incarnent l'idée que le danger peut surgir de n'importe où, dans son quartier, dans sa maison ou sa vie quotidienne. C'est une peur très moderne, celle de l'insécurité imprévisible. Même dans des sociétés modernes, les films de possession ou de hantise restent populaires. Par exemple, The Exorcist, The Conjuring. Ils jouent sur une peur très ancienne. Ce qu'on ne comprend pas, ce que l'on ne peut pas contrôler, ou ce qui pourrait exister au-delà de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de films d'horreur montrent que le véritable monstre n'est plus forcément une créature. Dans des films comme Get Out, Hérédité ou Obsession, les thèmes abordés sont les traumatismes familiaux, les tensions sociales, le racisme, la santé mentale, l'isolement et encore plein d'autres. Le monstre devient parfois symbolique. Ce sont nos peurs intérieures qui prennent forme. Les monstres changent au fil du temps parce qu'ils reflètent les inquiétudes de chaque époque. Derrière, les vampires, les zombies ou les tueurs masqués, ce sont souvent les peurs bien réelles de la société qui se cachent. Les films d'horreur nous parlent donc autant de nous-mêmes que des monstres qu'ils mettent en scène. L'horreur aujourd'hui. Le genre est devenu très varié, donc voici des films que je vous conseille. Donc tout d'abord, on y retrouve ce qu'on appelle les slashers. Ça met toujours en scène un tueur psychopathe qui traque ses victimes pour les éliminer, souvent à l'aide d'une arme blanche. Exemple, on retrouve Les Griffes de la Nuit, Scream, Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, on a les found footage. Eux, ça joue sur l'aspect authentique des vidéos. Grâce à des caméras embarquées, ces films sont très immersifs et réalistes. Exemple, Paranormal Activity, Le Projet Blair Witch, REC. On a le sous-genre, le surnaturel. Esprit, démon, possession, malédiction, le sous-genre surnaturel explore des sujets liés à l'invisible et l'au-delà. Par exemple, L'Exorciste, The Conjuring ou Annabelle. Le prochain sous-genre, c'est l'horreur psychologique. C'est un de mes préférés. Ça met en scène différents états mentaux afin de créer la peur et de déranger les spectateurs. L'horreur est souvent plus suggérée que montrée et met en lumière des aspects sombres de la psyché humaine. Exemple, Shining, Psychose, Midsommar, Split. Les thrillers horrifiques. Entre le thriller et l'horreur, ce sous-genre joue sur le suspense, la manipulation et la psychologie. Dans ces films, l'horreur est plus réaliste et souvent liée à des meurtres. Par exemple, Get Out, Le Silence des Agneaux ou Seven. Pour conclure, je dirais que les films d'horreur ne servent pas seulement à nous faire peur. Ils parlent souvent de nos angoisses profondes et de celles de notre époque. Finalement, regarder un film d'horreur, c'est parfois une manière de mieux comprendre nos peurs.
Merci à Lola de nous avoir plongé dans l'histoire des films d'horreur depuis plus de 100 ans maintenant. Alors, du coup, merci beaucoup à Lola. Dans quelques instants, vous restez avec nous. Place à Noé qui reviendra sur l'industrie du rap. Le rap qui connaît eh bien une émergence depuis près de 40 ans maintenant, voire même 50 pour les plus anciens d'entre nous. On parle de cette industrie du rap dans quelques instants avec Noé dans l'émission Fréquence 1625 sur Radio Côte-Varoise avec la mission locale Corail de hier. Chose promise, chose due, suite de l'émission Fréquence 1625 sur Radio Côte-Varoise avec la mission locale Corail de hier. Et nous retrouvons tout de suite Noé qui nous parle de l'industrie du rap, le rap qui est une de ses passions.
Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion sur un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. C'est le rap et toute son industrie. Et je vais mettre en lumière trois artistes qui sont pour moi très talentueux et qui n'ont pas totalement la même visibilité que d'autres artistes qui sont très célèbres et qui ont une cote dans l'industrie. Donc le rap est devenu la musique la plus plébiscitée en France. On le retrouve partout, donc dans des playlists, sur les réseaux sociaux ou dans des festivals, des concerts et même à la télévision, certaines émissions comme Nouvelle École sur Netflix ou même Les Flammes. C'est un festival où on récompense plusieurs artistes avec des styles différents. Et aussi, il peut y avoir des rappeurs qui sont dans la victoire de la musique. Pourtant, derrière cet immense succès, donc c'est une question persiste. Donc, les artistes les plus talentueux sont-ils vraiment ceux qui occupent le devant de la scène? Donc, l'industrie musicale d'aujourd'hui repose énormément sur des chiffres, les écoutes de streaming, les vues sur YouTube, les tendances sur TikTok, combien on a fait aujourd'hui ou hier ou demain. Donc tout ça, c'est le principal sujet pour les artistes. C'est aussi des algorithmes. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont selon les personnalités de chaque personne. Il suffit donc d'avoir une vidéo virale pour qu'un morceau devienne un hit. Maintenant, on fonctionne avec des petits extraits de 1 minute, donc des petits clips que les artistes peuvent faire. Et là, du coup, c'est fini les clips de longue durée qui font à peu près 2 minutes donc la musique. Ça se fait plus trop et donc sur TikTok, c'est des consommations rapides comme TikTok, les reels sur Instagram ou short YouTube. En fait, maintenant c'est beaucoup plus des consommations rapides. On scrolle et si ça nous plaît, on peut liker, commenter, partager tout ça. Donc voilà. Et ça peut devenir ça peut monter dans les classements du top 50, par exemple Spotify, Deezer. Ou même ça peut monter aussi dans les radios. Ça peut aussi avoir une opportunité fantastique pour certains artistes, parce que ça peut également reléguer au second plan les talents qui peinent à obtenir la même visibilité malgré leur potentiel. Donc ça peut être des talents qui ont dans la plume, dans les flows, dans les techniques de rimes, si c'est multisyllabique ou des rimes simples. Mais ça fait toujours son petit effet et s'il apporte beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est surtout, on va attendre de lui qu'il fasse un beau visuel, que ça soit cohérent et qu'il a une personnalité propre à lui, donc une direction artistique. Pour moi, 3 artistes sont vraiment importants et que j'ai connus grâce à la télévision, donc Nouvelle École, ou sinon Les Flammes. Pour moi c'est des musiques qui représentent ma personnalité. Donc c'est Ino Casablanca, Bébé Jacques et surtout Warren, qui pour moi on peut se refléter en fait en lui, parce que il dit des choses qui sont réelles, mais aussi qu'il a une personnalité qui est différente des autres, car il a un personnage en fait et il se joue d'une face qui est gentille quand on lui parle, et quand il fait du rap il extériorise avec un autre personnage. Donc c'est bien. Avec Bébé Jacques, ce que j'aime bien, c'est que il a un flow un petit peu décalé des autres, mais qui dit toujours quelque chose de vrai, de sincère, et il donne une émotion quelconque avec le rappeur. Donc il y a certains titres que j'aime bien, Bissap du 20e de Ino Casablanca. Donc Ino Casablanca, c'est un rappeur qui met des inspirations orientales. Il dit des choses dans la vie réelle, mais surtout en fait il met des inspirations orientales. Parce que en fait, il veut pas se prendre la tête, il veut profiter de la vie et il aime s'amuser. Et il a ce truc de dire profiter de la vie parce que on en a qu'une et que elle est assez rapide, et que si on a des galères, il peut y avoir toujours des solutions et à nos problèmes, et donc c'est cool, voilà.
Donc c'est un message positif, en fait.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et aussi, il fait référence à beaucoup ses origines, parce que il est fier de ses origines. Il faut pas, faut pas discriminer, ou de, il faut être fier de soi et de ses origines, et il faut pas faire abstraction d'où l'on vient. Et donc ça, c'est aussi bien.
Que t'as mettre la mifato, je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre, plein de bitches, des ragots. Tiens les potos, oui, gâteau. J'étais déjà plus nia. Cherchais juste à vivre, plein de bitches, des ragots. À chaque crue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris. Après Dia. Sorcellerie, mais non, 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 non. Sur ma gueule, que ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'es dit. Que je me venge sur la vie. Dia après Dia da. Et quitte à mettre la mifado, je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Plein de bitches, des ragots. Tiens les potos, oui, gâteau. J'étais déjà plus. Cherchais juste à vivre, loin des bitches, des ragots. À chaque crue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris remplis de CV. Ils rêvaient de me voir banni. Mais toi, je vis ce qu'ils pourront pas vivre. Pas tard, je me venge sur la vie. Dia après Dia da.
Dommage, c'est que aujourd'hui en fait il y a beaucoup de intelligence artificielle qui prennent beaucoup de place dans les réseaux sociaux, même sur TikTok, et il y a la toute première intelligence artificielle qui va être sur Skyrock, qui s'appelle Willy l'Ancien. Et en fait c'est une intelligence artificielle en fait qui a fait des millions de vues, des millions de streams, et qui maintenant va profiter d'une écoute en radio, donc sur Skyrock. Moi je donne mon avis, je trouve ça pas vraiment bien, parce que en fait on met en lumière entre guillemets l'intelligence artificielle, alors que il y a des artistes qui sont au milieu, et en fait eux ils sont humains, ils écrivent avec leur cœur et leur âme, et même leur tête. Et en fait, l'intelligence artificielle n'a pas d'âme. Donc elle peut pas, elle place juste des mots, en fait. Et donc je trouve ça pas bien pour les artistes qui sont comme moi en train d'écrire, d'enregistrer des sons. Il y a des artistes donc comme moi aussi qui sont un peu plus accessibles, parce qu'il y a des distributeurs donc de musique qui peuvent sortir donc des musiques facilement, surtout où on dit le titre, quand ça sort, la date, tout ça. Donc ça aussi c'est pour des personnes indépendantes qui veulent se lancer dans la musique, ou ceux qui veulent produire, ou même faire de l'instrumental. Ils peuvent mettre leur musique directement sur les plateformes. C'est facile d'accès, et puis il y a plus trop besoin de label. On peut en avoir un, on peut signer, ça donne un coup de boost, mais si on est artiste indépendant, et en fait on peut facilement faire de la musique et facilement profiter de cette accessibilité.
Et nous allons remercier Noé Aaron qui est avec nous tout à l'heure pour nous parler de sa passion, les mangas, et puis également Lola qui nous en a appris un peu plus sur le phénomène de peur, pourquoi on aime se faire peur en regardant quelques films quelques fois sur nos écrans. Et puis merci à Noé qui vient de nous parler de sa passion du rap et l'industrie qui tourne autour de ce genre musical. Merci également à Clara Guess qui accompagnait les jeunes de l'émission locale Corail. C'est la dernière de la saison, la prochaine au mois de septembre, fin septembre, sur Radio Côte Varoise. D'ici là, je vous souhaite de passer un très très bel été avec Radio Côte Varoise.